On va parler de la situation des travailleurs, travailleuses au Québec, mais particulièrement en Mauricie, centre du Québec. Et pour parler de ça, en lien avec le projet de loi qu'avait déposé le ministre du Travail, Jean Boulet, eh bien, on a pensé inviter avec nous le président du Conseil central du Cœur du Québec, CSN, et j'ai nommé Pascal Bastarache. Monsieur Bastarache, bienvenue à notre antenne.
Merci, bonjour, et merci pour l'invitation.
Ah, ben c'est rien. On voulait, des fois, on veut un son de cloche qu'il n'y a pas d'autre intervenant que celui d'un syndicat là, pour vraiment faire... le bilan de ce qui se passe. On sait que vous allez prendre part à un grand rassemblement et ça va avoir lieu la semaine prochaine à Montréal, le 29 novembre. Et là, ben, vous allez répliquer aux attaques ce que vous qualifiez de aux droits des travailleurs. Expliquez-nous un peu, Pascal Bastarache, ce que vous perdez avec le projet du gouvernement Legault.
Oui, si vous me permettez, avant de parler là, des deux projets de loi qui, oui, effectivement, est une attaque envers les travailleuses et les travailleurs, mais qui ont des répercussions sur l'ensemble des citoyens et des citoyennes, juste qu'on fasse ensemble un petit retour en arrière. Là.
Oui.
Pourquoi qu'on s'en, avec le gouvernement, on s'enligne vers ça? Et quel est le but premier? Si on regarde depuis les dernières années, le mode de gouvernance de la CAQ, qui est un mode de, je vais qualifier ça de businessman, donc d'homme d'affaires, de femme d'affaires, qui investit sans compter les fonds publics, donc notre argent, nos impôts, nos taxes, dans divers projets privés. Donc ça, on l'a vu de plus en plus, et qu'on voit les répercussions qu'il a eues sur, que ça a eu sur les coffres de l'État. Tu sais, je donne des exemples là, que je pense que vous connaissez bien, que ce soit Northvolt. Donc Northvolt, on a perdu collectivement 270 millions. Puis là encore, je reste prudent parce que c'est plus aux alentours de 500 quelques millions. Mais si vous vous souvenez, le gouvernement nous a promis d'essayer de récupérer son terrain et de le revendre. Donc, on va dire 270 millions.
Ouais.
On a le fiasco également de Satellite que j'inclus là-dedans parce que clairement, il y a un déficit dans le mode d'attribution des contrats à des firmes privées qui se sont, excusez-moi l'expression, graissé la patte en même notre argent. Présentement, on parlait d'un milliard, mais on mentionne que ça pourrait se rendre jusqu'à 3 milliards, imaginez. Le troisième lien, hein, le gouvernement avait décidé de le faire, a décidé de ne plus le faire, de le refaire. Et seulement pour de nouveau regarder la possibilité de le faire, ils ont juste pour ça dépensé 275 millions de dollars pour faire une enquête, pour voir s'ils allaient le faire. On a eu des investissements dans plein d'autres compagnies. On a dans des projets d'Airbus où, que collectivement, on a perdu 400 millions de dollars. Recyclage Varenne, une autre entreprise. Nous avons perdu 170 millions. T'sais, je vous épargne de toute la liste, là, mais la liste est longue de l'ensemble de l'argent que nous avons perdu avec la CAQ par le biais de ces pertes financières-là.
Monsieur Bastarache, ajoutons à ça la plateforme numérique, l'équivalent du SACLIC en santé, la plateforme en santé. Ça aussi, là.
Oui, on a déjà des dépassements de coûts. On parlait de 200 millions où le ministre de la Santé essaie justement de siphonner, on va dire comme ça, encore plus d'argent. Et tout ça par une décision unilatérale d'avoir créé l'Agence Santé Québec. Puis là, on voit que ça commence déjà à dysfonctionner, qu'on n'est pas capable de s'en occuper. Donc, c'est vraiment des graves répercussions. Puis ça provient de décisions politiques du gouvernement. Puis parmi celles-là, si vous vous rappelez, on a les fameuses maisons des aînés, de la CAQ, où on mentionnait que, écoutez, la création du concept maison des aînés, tout allait être réglé, tout allait être beau, mais dans les faits, puis quand on regarde le tout, écoutez, ça n'a aucun sens. On a investi dans ce projet-là, dans du béton, l'équivalent de 2 millions de dollars par chambre.
Oui.
Par chambre.
Je trouvais ça énorme à l'époque.
Ah, écoutez, cela encore aujourd'hui. Il y a certains endroits où on a continué le projet, puis ça a été jusqu'à 1,8 million. On a une trentaine, voire cinquantaine de maisons des aînés au Québec. On parle de plusieurs milliards, des milliards de dollars investis dans le béton. tout ça au lieu d'investir directement dans des services directement à la population, que ce soit par le biais des CHSLD qui étaient là, qui ont besoin de financement, ou encore les services à domicile, donc pour donner directement un service à la population. Mais on investit ça dans les maisons des aînés. On a également les maternelles 4 ans, si vous vous souvenez. Donc, oui. Un projet de la CAQ, le plan de la CAQ qui était les maternelles 4 ans. Et malgré le fait qu'on avait une levée de boucliers, que toutes les personnes qui travaillaient dans les milieux disaient « Non, non, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Nous sommes déjà en surcharge de travail. Nous n'avons pas la capacité d'accueil. » Le gouvernement ne les a pas écoutés et a décidé de foncer vers ça. Ça, là, ce projet-là a coûté en moyenne là, 800 000 $ par classe. Seulement par classe. Donc, imaginez, là, avec la multiplication de tout ça au Québec, on parle encore de plusieurs millions, voire de milliards de dollars. Et tout ça a été fait au détriment d'un organisme qui existait déjà, les centres de la petite enfance, les CPE,
oui.
Qui, à maintes reprises, ont prouvé leur expertise dans le domaine, qui avaient besoin d'aide de la part du gouvernement pour ouvrir plus de places, parce que tout le monde aimerait envoyer leurs enfants dans les CPE. Mais au lieu de faire ça, on a décidé, on s'est entêté d'aller vers les maternelles 4 ans et encore aujourd'hui, on en paie le prix. Et là, ouais. Je vous épargne les coupures en santé,
ouais.
L'installation, la privatisation de notre système de santé, les coupures qu'on vit encore en éducation. Donc, ça va pas bien pour la CAQ aujourd'hui. Parce que quand on regarde les investissements que je vous ai parlé un peu plus tôt, les milliards qu'on a perdus, et depuis maintenant un an, où que le gouvernement demande dans le milieu de la santé de couper massivement, le tout ayant des répercussions directement sur les patients, de couper en éducation. Seulement pour notre région, le gouvernement de la CAQ essaie de récupérer 42 millions avec le CIUS Mauricie-Centre du Québec. En éducation à Mauricie, on a demandé de couper 32 millions de dollars.
Oui, c'est énorme.
Donc, ah, c'est énorme.
Ouais.
Et là, tu sais, on peut faire le lien justement entre les mauvaises décisions de la CAQ qui ont perdu énormément d'argent dans les projets privés et que maintenant, les coffres de l'État sont vides et essaient de récupérer les fonds à même nos services publics, à même les services à la population. Et ça, c'est inacceptable. Puis, on va se dire, M. Bernard, à un an des élections, c'est pas glorieux là, comme liste. Là.
Non.
Ça va pas bien, tout ça. Donc, j'en viens aux attaques syndicales.
Oui, oui, allez-y. Ben,
écoutez, le gouvernement va sûrement pas dire à la population, on s'est trompé, excusez-nous, on a mal investi votre argent, on l'a perdu. Bien sûr que non. Le gouvernement doit trouver des boucs émissaires, doit trouver d'autres sujets pour, je veux dire, transférer la chaleur, mettre les projecteurs ailleurs. Et on voit clairement la stratégie du gouvernement qui est d'attaquer les syndicats.
Ouais.
Donc, de mettre le débat sur la place publique et de mettre plusieurs projets de loi pour justement faire, détourner l'attention et qu'on ait un échange comme société, puis ça va, mais pour vraiment qu'on retire l'attention de l'ensemble des bévues qu'ils ont fait pour que le débat se passe ailleurs.
Oui.
Et là-dedans, dans ces attaques-là, il y a deux projets de loi, si vous me permettez.
Oui, oui.
Il y a le projet de loi 89.
Ah, 89.
Il y a le projet de loi 89 qui va devenir la loi 14. On en a parlé beaucoup dans les derniers jours.
Exact.
Et ça, je vous le dis, c'est une attaque sans précédent envers le droit de grève des personnes salariées au Québec. Et là, je parle de peu importe le secteur confondu. Ça, là, ça donne le gouvernement... par le biais de M. Jean Boulet, qui est le ministre du Travail, qui, je rappelle, là, de profession, M. Boulet est un avocat spécialisé en loi du travail.
Exact.
Et lui, son travail avant, là, c'était un avocat du patronal qui négociait pour Elimel.
Oui.
Et maintenant, M. Boulet essaie de convaincre la population que le fait qu'il se donne des leviers politiques pour s'ingérer dans le droit du travail, d'empêcher des travailleuses et des travailleurs d'exercer leur moyen ultime dans leur pouvoir de négociation, donc le moyen ultime qui est le droit de grève. Donc, il essaie de nous vendre vraiment sa salade en disant que s'il stoppe une grève, bien, ce n'est pas pour ses amis du patronat, pour les 1% les plus riches du Québec. Il le fait. Puis là, il dit sans rire, excusez-moi, mais moi, ça me fâche. Il dit que tout ça vise seulement à la sécurité de la population, la sécurité économique, la sécurité, il a même dit la sécurité environnementale.
Oui.
Puis on entend que la CAQ, en ce moment, l'environnement, ça n'a pas l'air d'être une de leurs priorités.
Monsieur Bastarache, oui, à un instant, c'est que, et même on l'a vu récemment dans le conflit du transport à la ville de Montréal, la STM, il a évoqué le fait qu'il pourrait aller jusqu'à une loi spéciale pour faire revenir les travailleurs. Je crois que les premiers, c'était entretien ou chauffeur. Je crois que c'était entretien, peu importe. Oui. Et c'est là, là qu'on commence à toucher aux droits des travailleurs syndiqués de pouvoir exercer un moyen de pression. Parce que si on enlève ça, ben, il ne reste plus de moyen de pression, là.
Absolument. Il ne reste aucun pouvoir de rebalancer le balancier, je pourrais dire, entre une grande organisation ou une multinationale avec leurs travailleuses et travailleurs. Puis ça, vous avez raison, c'est un très bon exemple. Personnellement, je ne connais pas l'ensemble du dossier, mais ce que je sais, c'est ça nous a démontré qu'est-ce qui nous attend collectivement, quand que nous, que ce soit moi, je travaille en santé, d'autres, ils peuvent travailler dans des entreprises, mais qu'est-ce que ça va donner pour la suite si ce projet de loi-là passe tel quel? La STM, là, qu'est-ce qu'on ne mentionnait pas, parce qu'on dirait que dans les médias, la seule chose qu'on véhiculait là-dedans, c'était que ben, tout le monde était pris en otage. Donc, il y avait une grève, tout le monde était pris en otage. Mais ce qu'on ne semblait pas dire, c'était que ça faisait peut-être plus d'un an, ça faisait environ 120 rencontres qu'il y avait de négociations et que la partie patronale, donc la STM, n'avait pas bougé d'un iota. Et même que la partie patronale proposait seulement d'importants reculs pour ses salariés et proposait également la privatisation de certains de ses services.
Oui.
Et l'ensemble des salariés ne voulaient pas subir des reculs sur leurs conditions de travail et se battaient pour que le tout reste public et se battaient contre la privatisation. Mais la STM ne négociait pas de bonne foi en sachant pertinemment que ce projet de loi-là allait entrer en fonction bientôt et clairement voulait l'invoquer.
Oui. Monsieur Bastarache, avant d'aller plus loin, qu'est-ce que vous répondez? On l'entendait souvent dans ceux qui étaient interviewés dans la rue à Montréal que les syndicats sont trop forts. Il y en avait qui étaient pro-syndicats pour les raisons que vous avez évoquées, puis d'autres qui disaient, écoutez, on est pris en otage. Qu'est-ce que vous leur répondriez aujourd'hui?
Bien, je leur répondrais qu'effectivement, ce n'est pas une situation drôle là, de faire une grève. Puis comme je le mentionnais, c'est un moyen de dernier recours. Mais par contre, quand on fait face à un employeur qui ne veut pas négocier, qui ne le fait pas de bonne foi, c'est un dernier recours. Puis honnêtement, quand je regarde, pas seulement une grève ou un conflit de travail, mais quand je regarde l'ensemble des ajustements du gouvernement, là, on parle en ce moment de transport du commun, et on a vu combien de fois, M. Bernard, des municipalités sortir en mentionnant qu'il manquait et qu'il décriait un manque flagrant de financement pour donner des services dans le transport en commun. Et le gouvernement s'en est toujours lavé les mains. Quand je regarde présentement le service public, nos soins de santé, vos soins de santé qui sont privatisés, et la plupart du temps, quand on va essayer d'avoir des soins, on dit d'aller vers le privé, ça va aller plus vite, mais vous allez devoir payer de votre poche. Quand on regarde les coupures en éducation, je vous pose la question, qui prend qui en otage, selon vous? Ça n'a aucun sens. Donc, les ajustements du gouvernement, présentement, de par ses gestes, c'est qu'il, lui, prend la population en otage en sous-finançant notre filet social. Donc, on est rendu, selon moi, à un cap que nous devons tous se lever et protester contre le gouvernement et ses ajustements parce qu'on n'y arrivera plus collectivement. Puis avant de perdre l'ensemble de nos droits, pas seulement comme syndiqués, mais comme citoyens, citoyennes, bien, on doit en prendre conscience de ce qui se passe présentement.
Oui. Pascal Bastarache, en terminant, donc le 29 novembre, vous allez participer à un grand rassemblement à Montréal. On sait que la CSN invite la population, ceux qui veulent appuyer les travailleurs, travailleuses. Cette journée-là, ça va être dimanche, pas qui vient, mais l'autre dimanche d'après à Montréal. Dans les partis qui, en tout cas dans la campagne électorale qui va commencer bientôt en vue des élections de l'automne prochain, entre les libéraux et le PQ, est-ce que vous voyez qu'il y a un peu d'espoir pour rétablir un peu l'équilibre au niveau des travailleurs syndiqués? Avez-vous vu une espèce de plateforme du PQ ou des libéraux jusqu'à présent?
Ben, moi, je dirais que l'action va viser, puis là, je comprends qu'on manque un peu de temps. On a parlé du projet de loi, la loi 14. Il y a également la loi sur la transparence syndicale, la cotisation syndicale également.
Ouais.
Mais le message qu'on va envoyer, c'est que, on veut l'envoyer à la CAQ, mais également à tous les partis politiques, que les plateformes électoralistes, les projets de loi adoptés sous Bayon, le fait que la classe politique essaie de s'ingérer dans des droits fondamentaux des citoyennes et des citoyens, d'avoir accès à la gratuité, au filet social, aux différents services, quand que le gouvernement essaie de jouer là-dedans, c'est inacceptable. Et le message qu'on va envoyer le 29, puis oui, c'est l'ensemble des accréditations syndicales qui vont être présentes, mais il y a également énormément de personnes de la société civile qui vont être présentes. Il y a beaucoup de groupes communautaires qui vont être là, qui seront sous-financés. Il va y avoir également des groupes étudiants qui sont martelés également, qui sont pris en otage par le gouvernement, qui vont être présents. Donc, le message qu'on va envoyer le 29 à Montréal, c'est à l'ensemble de la classe politique, peu importe le parti, que ce soit la CAQ, le Parti québécois, le Parti libéral du Québec, c'est qu'il y a une limite à jouer une game, politique, sur le dos de l'ensemble des citoyens et des citoyennes. La CAQ, par le biais de ses projets de loi, de son imposition sur le détriment de nos services, bien, ça ne passe pas. Et comme société, nous devons se lever, se tenir debout et leur dire que c'est terminé. C'est terminé qu'un gouvernement qui est élu par environ 22% des personnes inscrites à la dernière élection décide d'imposer son agenda caché, de détourner nos fonds publics, et ça, sur notre dos.
Vous venez d'entendre une entrevue réalisée en collaboration avec Initiative de journalisme local.